إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل في هذه البداية أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. Le thème de cette conférence est, comme est affiché, jamais sans mon mari. Et beaucoup de personnes se sont posé la question, qu'est-ce que ça signifie ce titre? Et pourquoi a-t-on choisi ce thème ou ce titre? Le but principal derrière le choix de ce titre, jamais sans mon mari, c'est de parler entre nous et de parler à chacun et à chacune et d'adresser un message de rappel, at-tazkir, un message qui corrige certaines idées. C'est un message de ce qu'appelle le Coran al-Karim, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le rappel, certes, apporte profit pour les croyants et les croyantes. Donc c'est un message pour rappeler aux musulmans et aux musulmanes quelques principes importants que nous remarquons de plus en plus qu'il y a un oubli et une négligence chez beaucoup de musulmans, hommes et femmes, et particulièrement chez les jeunes, et surtout chez les jeunes couples. Le but de cette conférence est de parler des liens auxquels a appelé l'islam entre l'homme et la femme. Les relations entre homme et femme en islam, et spécialement entre le mari et son épouse. Quelles sont les règles de cette relation entre le mari et sa femme, et comment l'islam donne aux musulmans une conception qui est beaucoup plus profonde que le simple contrat de mariage, une conception qui est beaucoup plus profonde que les moments que peut passer le mari ou la femme à satisfaire certains besoins. L'islam, à travers le mariage, construit une famille, construit une société saine, saine dans ses actions, ses œuvres. Dès qu'ils ont vu ce titre qui est « Jamais sans mon mari », directement ils ont pensé à quoi? À un autre titre qui ressemble un petit peu, qui s'appelle « Jamais sans ma fille ». Et bien sûr, le titre que j'ai choisi s'est fait exprès. C'est pour répondre à ceux qui essayent de donner une image aux gens que l'homme et la femme sont des ennemis l'un pour l'autre. « Jamais sans ma fille », un problème entre un homme et une femme, et on voit que c'est la femme qui prend avec sa fille et qui part. La femme et la fille d'un côté et le mari de l'autre. La vérité est avec la femme et la fille, et c'est le mari qui a tort. C'est une fausse question qui est posée. Je ne suis pas ici pour parler qui a tort et qui a raison dans le couple. Des fois c'est le mari qui a raison, des fois c'est la femme qui a raison. Je ne suis pas là pour ça. Au contraire, je suis là pour faire un rappel à tout homme et à toute femme musulmane de l'importance de revoir la conception islamique des relations entre le mari et sa femme. Qu'est-ce que ça représente le mari en islam pour la femme? Et qu'est-ce que ça représente la femme en islam pour le mari? C'est pour, en quelque sorte, renforcer ce lien qu'a déclaré Allah Azza wa Jal, lien ferme, mithaqan ghaliza. Et nous allons voir, le long de cette conférence, plusieurs textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montrent la place de chacun, du mari et de la femme. Mais dans cette conférence, je me concentrerai sur la place du mari, vu que le titre est un message adressé à tout le monde, mais spécialement à la femme musulmane. Spécialement. Tout d'abord, la première chose qu'il faudra revoir, c'est de dire au mari et à la femme, au mari musulman et à la femme musulmane, n'oubliez pas la fin principale pour laquelle Allah Azza wa Jal vous a créé. Si on oublie cette première idée ou ce premier principe qui est la fin de la vie, la fin de la création pour l'homme et pour la femme, qui est celle de passer un certain moment qui est décidé par Allah Azza wa Jal dans ce bas monde, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois homme ou femme, il n'y a aucune différence à ce sujet et à ce propos. À ce niveau, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Que chacun des deux est créé pour une fin bien déterminée qui est al-ibada, ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout musulman sait très bien, ou bien il a déjà entendu le verset du Coran al-Karim qui dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Si l'homme travaille pour cette fin, et c'est, si la femme travaille pour cette fin, qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal, beaucoup de choses vont changer dans la vie du couple. Si on se fixe cet objectif, cette fin, qui est celle de plaire Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Je me marie pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais des enfants pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois éduquer mes enfants sur la voie de l'islam pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois choisir le bien pour moi, pour mon épouse et pour mes enfants pour plaire Allah Azza wa Jal. Je dois faire preuve d'endurance dans cette vie avec ma famille, avec mon couple, avec mes enfants, dans le but de gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce que je fais rentre dans l'adoration, al-ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première chose à laquelle il faut appeler le mari et la femme. C'est de ne jamais, jamais oublier cette fin qui est la fin de la création, l'ibada, ta'at Allah subhanahu wa ta'ala, obéir Allah azza wa jal, et adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le deuxième point, est-ce que l'homme est étranger par rapport à la femme? Est-ce que la femme est une étrangère par rapport à l'homme? Quand on voit les aspects de certaines idées véhiculées dans la communauté et au sein, non pas des musulmans seulement, mais au sein de tous les peuples, que l'homme et la femme sont des ennemis les uns pour les autres. Et on appelle la femme, jour et nuit, les droits de la femme, la défense de la femme, les associations féminines, etc. Le premier ennemi, comme on dit, l'ennemi public numéro un, c'est l'homme, c'est le mari. Est-ce qu'en islam, le mari est considéré comme un étranger par rapport à la femme? Est-ce que la femme est considérée comme une étrangère par rapport à l'homme? La réponse nous vient dès la première création de l'être humain. Notre père Adam alayhi salatu wa salam. Adam qu'Allah azza wa jal a honoré du fait qu'il l'a créé, subhanahu wa ta'ala, par ses propres mains. Et qu'il lui a donné le paradis. Il l'a fait rentrer au paradis. Et qu'il lui a donné cette longue durée de vie, 1000 ans. Adam a été honoré par Allah azza wa jal. Mais malgré cela, Adam s'est trouvé dans une solitude au point où il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui donner un être de la même nature que Adam, qui vient de la terre, un être humain pour lui tenir compagnie dans cette vie. Adam était honoré par Allah Azza wa Jal, autour de lui les malaïka, les anges. Adam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé, comme il est rapporté dans le hadith de Abi Dharr, que Adam était nabiyun mukallamun muallam. Adam alayhi salam n'a pas su vivre seul malgré la présence des anges et les malaïka. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de quelqu'un qui lui tient compagnie de sa nature. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé à partir de Adam alayhi salam son épouse Hawa alayhi salam, notre mère. Et subhanallah, ce n'est pas un hasard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses discours, l'introduction qu'il faisait dans les discours qu'il tenait avec les compagnons, que ce soit le discours de Jumu'ah ou les autres discours tels que les fiançailles, etc., les mariages, c'est d'introduire au sujet par les versets que vous avez entendus au début de la conférence. Et parmi ces versets, « Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha » Craignez Allah Azza wa Jal qui vous a créé à partir d'une seule âme, et à partir de cette âme, Allah Azza wa Jal, de cette personne qui est Adam, a créé Hawa. Et à partir des deux, Allah Azza wa Jal a créé ses descendances, les descendances de Adam alayhi salam. Donc la femme, c'est elle qui tient compagnie à l'homme, et l'homme c'est lui qui tient compagnie à la femme. Ça veut dire que cette compagnie a débuté depuis les premiers moments de la vie de l'homme sur terre. Ils sont ensemble depuis le début de la création de Adam, ils vont rester ensemble jusqu'à la fin des temps. L'homme ne peut être un étranger par rapport à la femme, ni la femme par rapport à l'homme. Chacun d'eux a besoin de l'autre pour vivre ensemble pour la fin qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième question, est-ce que l'homme est un ennemi, à votre avis? Dans la réalité, on voit que l'homme, plutôt, on fait croire aux gens que l'homme et la femme sont des ennemis. Et que l'homme doit faire et user de toutes les ruses pour ne pas se faire avoir par la femme. Et la femme doit utiliser tous les moyens pour ne pas se faire avoir par le mari. L'islam nous donne une autre conception. L'islam nous donne une autre image de la vie du couple, du mari avec sa femme. Dans trois hadiths que j'ai choisis, juste des flashs, pour voir un peu, est-ce que l'homme et la femme sont des ennemis les uns pour les autres, ou l'un pour l'autre, ou bien ce sont des deux personnes qui doivent vivre ensemble, et qui doivent chercher à vivre ensemble, et s'entraider pour le bien des deux, pour le bien de leur foi, pour le bien de leur adoration, pour gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, dans son recueil authentique, un hadith qui est très réputé, hadith dans l'histoire de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Amr ibn al-As, quand il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière spontanée, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, man ahabbu al-nasi ilayk ?»« Man ahabbu al-nasi ilayk ?» Une question, qui parmi les gens que tu aimes le plus? Man ahabbu an-nasi ilayk? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Aisha. Aisha. Amr ibn al-As ne lui a pas dit qui est le premier ennemi. C'est Aisha, c'est mon épouse. Qui tu aimes le plus? Il dit Aisha. Radiyallahu anha. Amr ibn al-As lui dit min al-rijal. Parmi les hommes, il dit Abuha. C'est-à-dire Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anha. Ainsi de suite, Omar, etc., etc., et d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'islam, par cet exemple, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre clairement qu'est-ce que ça représente, l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam déclare publiquement devant ce compagnon Amr ibn al-As que la meilleure personne qu'il aimait sallallahu alayhi wa sallam, c'était son épouse, Aisha radiyallahu anha. Le deuxième exemple, rapporté par Muslim. Aïcha radiyallahu anha ne ressentait pas de jalousie quand le prophète en train de parler de ses épouses, excepté quand il parlait de qui? Khadija radiyallahu anha. La première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a passé 25 ans avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui a soutenu le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans les pires des moments, elle était à ses côtés, radiyallahu anha. Alors le prophète sallam ne l'avait jamais, ne l'a jamais oublié. Il parlait tout le temps de Khadija, 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 Khadija. Même quand il y a des choses à la maison, on offre au prophète sallam quelque chose, ou bien il fait l'immolation d'une bête, un sacrifice, etc. Il offre une partie, il dit, donnez cette partie de viande ou ces cadeaux aux amis de Khadija radiallahu anha, après sa mort. Et Aïcha était très jalouse d'entendre cela. Alors un jour elle s'est mise en colère contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, Khadija, 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 tu parles tout le temps de Khadija. C'est qui cette Khadija? Une vieille dame, âgée. Je suis mieux qu'elle. Alors ça me dit, Aïcha, ne dis pas cela de Khadija. Inni ruziqtu hubbaha. Inni ruziqtu hubbaha. Allah Azza wa Jal m'a donné beaucoup d'amour envers Khadija radiallahu anha. Ça c'est la conception de l'islam. Rasulullah déclare qu'il aimait beaucoup son épouse Khadija radiallahu anha. Comment peut-on considérer que l'homme est l'ennemi de sa femme? Alors que, logiquement, la vie ne peut pas continuer sans qu'il y ait la participation des deux. Un des objectifs ou des buts du mariage, c'est d'avoir des enfants. Et sans qu'il y ait un mariage, sans qu'il y ait homme et femme, participation de l'homme et de la femme, il n'y aurait pas d'enfants. Il n'y aurait pas d'enfants. Il n'y aurait pas de continuité de descendants, des descendants de Adam alayhi salam. Même dans la logique des choses, sans qu'il y ait participation commune de l'homme et de la femme, eh bien la vie sur terre, la vie humaine aurait pris fin il y a déjà des siècles et des siècles, voire même des milliers de siècles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait de telle sorte que l'homme a besoin de la femme, mais la femme a besoin de l'homme. Et que, avec cette participation commune des deux, la vie humaine continue sur terre. Jusqu'à un terme qu'Allah Azza wa Jal a fixé pour toute la création et pour toute l'humanité. L'homme ne peut pas, le mari ne peut pas être un ennemi pour son épouse. Il ne doit pas. Il ne doit pas l'être. Pourquoi? Parce que cet homme, il est soit un père pour cette femme, soit un mari, soit un fils, soit un frère, soit un oncle, paternel ou maternel. La femme ne peut pas, elle ne doit pas être un ennemi pour l'homme. Car la femme, elle ne peut être que ta sœur ou ta fille ou ton épouse ou ta mère ou ta tante. Comme avait dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à ce jeune compagnon qui avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait commettre le haram. Et Rasoul alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Atardahu li ummik, atardahu li ukhtik, atardahu li khalatik ». Qu'est-ce que voulait dire par là Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Que cette femme est pour toi soit une fille, soit une sœur, soit une tante, soit une mère, soit une grand-mère. La même chose pour l'homme. C'est un proche de la femme. Alors comment ils peuvent être des ennemis les uns contre les autres? Le quatrième ou la quatrième question, est-ce que dans le couple, il doit y avoir concurrence entre l'homme et la femme, ou il doit y avoir entraide entre les deux? Est-ce que c'est une concurrence qui va l'emporter sur l'autre, qui va avoir le dessus et l'autorité sur l'autre, qui va avoir le dernier mot comme on dit? Dans la réalité, dans beaucoup de cas, c'est comme ça que ça se passe, entre l'homme et la femme. L'homme dit à sa femme, tu vas voir, c'est moi l'homme, c'est moi le mari. La femme lui dit, et toi aussi tu vas voir qui va l'emporter, qui aura le dernier mot. Est-ce que c'est ça l'islam? Moi je m'adresse à la fois à la raison et à la fois à l'iman. Je m'adresse à la foi que tu as dans le cœur, que tu sois homme ou femme, je m'adresse aussi à la raison, à ta raison que tu as. Loin de tout ce qui se passe autour de nous, dans les couples musulmans, loin de toutes les traditions qui n'ont rien à voir avec l'islam, loin de tous les facteurs, que ce soit de l'intérieur de la famille ou de l'extérieur, de l'entourage, des amis, moi je m'adresse à l'homme et à la femme en tant que musulmans qui ont la foi et la raison, à partir de ce qui est dit dans le Coran al-Karim et ce qui est rapporté dans les textes authentiques de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je laisse à chacun et à chacune de prendre ce qu'il veut, d'accepter ce qu'il veut et de décider ce qu'il veut. Je préfère m'adresser à ses frères et à ses sœurs à travers le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et c'est à chacun de nous, avec foi et avec croyance, d'accepter la lumière du Coran, d'accepter la guidance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam appelle l'homme et la femme à s'entraider, et non pas à chercher à écraser l'autre, et à montrer que c'est l'un ou l'autre qui l'emporte et qui a le dernier mot. Au contraire, Allah Azza wa Jalla parle dans le Coran Karim du mawadda et du rahma, l'affection, l'amour entre la femme et le mari. Ça c'est la guidance du Coran Karim à laquelle appelle l'homme et la femme. La femme, pour le musulman, est un signe ou un facteur de sa'ada. Vous savez c'est quoi sa'ada? Le bonheur. Tout le monde court derrière le bonheur aujourd'hui. Et depuis toujours, l'homme, l'être humain court derrière le bonheur. Le bonheur, on peut l'acquérir par différents moyens. Le plus important, c'est l'iman, la croyance et la foi. Allah Azza wa Jal nous a donné aussi des facteurs qui contribuent à construire le bonheur de l'être humain. C'est d'avoir une épouse vertueuse, الزوجة الصالحة. Comme dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith al-Sahih, rapporté par Al-Bayhaqi, dans Shu'ab al-Iman, et d'autres livres de la tradition du prophète sallam, arba'un min al-sa'ada. Quatre choses qui font partie du bonheur. Qui peut les citer parmi vous? Les quatre. Si on ne les connaît pas, c'est très très grave. Vous savez pourquoi? Ça veut dire qu'on ne connaît pas le chemin du bonheur, tout simplement. Celui qui veut chercher le bonheur, il doit connaître les moyens et le chemin à suivre pour l'acquérir. Alors, si on ne connaît pas le chemin du bonheur, on ne peut pas l'acquérir. Alors, Rasoul Hassan, dans ce hadith, cite quatre. Premier, Zawjatun Saliha, une femme vertueuse. C'est ce qu'elle représente pour toi. C'est le bonheur. Une femme vertueuse, c'est le bonheur. Ce n'est pas un ennemi. Deux, Fadlun, bismillah. Al-Maskanul Wasi', un habitat qui est assez spacieux, comme un appartement qui est assez grand, etc. Trois, un bon moyen de transport, confortable, Al-Markabul Hani. Quatre, Al-Jaru As-Salih, un voisin, un bon voisin. Ce sont quatre choses qui t'aident à avoir le bonheur. Dans ce texte, la version que j'ai citée, le premier qu'a cité Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Al-Zawjatu Saliha, la femme vertueuse. La femme vertueuse est un facteur important, très important, pour construire le bonheur de l'être humain et de la famille dans ce bas monde. Le deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith rapporté par At-Tabarani et par Al-Hakim, c'est un hadith qui est bon, Hassan. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. La moitié de la foi. Qu'est-ce qui représente la moitié de la foi pour l'homme? La femme. La femme. La femme pour l'homme, je parle islamiquement, la femme pour l'homme, c'est la moitié de la foi, la moitié de la religion, la moitié du din. Alors, si on fait une comparaison entre ce qui est dit par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est pratiqué pour les musulmans, on va voir qu'il y a une grande différence. Dans la réalité, il y a une grande différence. Un grand espace entre les deux. Chez beaucoup de jeunes, comme j'ai dit, une fois qu'on est marié, le premier mois, c'est la lune de miel. C'était la lune de miel. Avant, c'était la lune de miel, le premier mois. Maintenant, même si cette lune de miel n'existe pas, vous savez pourquoi? Parce que la lune de miel, elle est déjà faite avant le mariage, chez beaucoup de musulmans. Donc qu'est-ce qui reste après le miel? Les mouches. Qu'est-ce qu'on trouve chez certains pratiquants, hommes et femmes, pratiquants? On trouve que le mari, après quelques mois de mariage ou quelques années, il décide de se séparer ou de divorcer, ou bien c'est le cas contraire, c'est la femme qui décide de se séparer ou de divorcer. Et quand tu essayes de réconcilier les deux, de lui dire ou de leur dire, Taqullah, vous allez détruire cette famille, vous allez détruire vos enfants, vous allez détruire vos parents, vous allez détruire la communauté et la société. Le divorce est un facteur qui détruit les sociétés. Il dit, Wallah, depuis
que je me suis séparé de ma femme ou de mon mari, je me sens, alhamdoulilah, tranquille et très à l'aise. Je prends mon appartement seul, je vis toute seule, et je suis à l'aise, alhamdoulilah, et rabbil alam. Et je n'ai pas besoin de ces problèmes quotidiens, fais ceci, ne fais pas cela, ça c'est permis, ça c'est interdit, alhamdoulilah, je suis tranquille. Et, subhanallah, un homme marié ou une femme mariée se sent tranquille et en paix et heureux loin de l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un grand problème dans le couple. Il y a un grand problème dans nos idées, dans nos pensées. Il faut tout d'abord corriger nos idées avant de parler, avant d'agir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on ne réfléchit pas en tant que musulman. On ne pense pas en tant que musulman. Et comme on dit, kullu ina'in bima fihi yanbahu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verre ? De l'eau. Si je verse, qu'est-ce qui va sortir ? De l'eau. Eh bien, on parle, on donne ce qu'on a reçu. Et malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas reçu une éducation islamique, ni même des principes islamiques. C'est pour cela qu'on réagit de cette manière. Pour un bête problème, eh bien, on en a marre, on demande la séparation, on demande le divorce, et on veut vivre seul. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'est-ce que ça représente la femme ou l'homme l'un pour l'autre. C'est la moitié de l'iman, la moitié de din. Et dans un autre hadith authentique, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam appelle les hommes en disant لِيَسْتَخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُهُ عَلَى دِينِهِ أَوْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. Cherche à avoir un cœur reconnaissant et une langue qui rappelle Allah Azza wa Jal, qui fait tout le temps un zikr, et une femme vertueuse qui t'aide à travailler et à œuvrer pour le delà. Pour le delà. Ça c'est le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un cinquième point. Jadis, il y a quelques années, chez les musulmans, avant le mariage, l'homme devait apprendre comment vivre avec son épouse. La femme devait apprendre, qui va se marier dans quelques mois, elle devait apprendre, ou même quelques années, elle devait apprendre comment se comporter vis-à-vis de son mari ou son futur mari. On prépare le jeune, le futur mari et la future épouse, on les prépare quelques années avant le mariage, pour que, une fois mariés, ils n'éprouveront pas de grandes difficultés à accomplir leurs nouvelles responsabilités. Chose qui n'existe presque plus aujourd'hui. Tu demandes à la jeune mariée, qu'est-ce que la femme musulmane qui est mariée doit faire? Quels sont ses droits et ses devoirs? Tu demandes au jeune garçon marié, quels sont tes droits et tes devoirs en tant que mari? Wallah, je sais pas. Et les passions, l'ahwa, ce sont des facteurs destructeurs de toute la société. Je commence, donc tout cela c'est une introduction, je commence par un rappel des droits de l'homme par rapport à la femme. Puisque le titre c'est « Jamais sans mon mari ». Donc je me concentre sur les droits du mari, les droits de l'époux. Pourquoi ? Inch'Allah, une autre fois on parlera du côté de la femme, bi'inillah azza wa jal. Mais parce que dans la réalité, je vais être franc, je vois qu'il y a un grand problème. Parce que aujourd'hui, on n'entend pas, ou rarement, qu'il y a des associations pour défendre l'homme. Pourquoi, à votre avis? Et c'est une tendance mondiale. C'est une tendance mondiale d'appeler les droits de la femme, les droits de la femme, les associations féministes. C'est une tendance mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que détruire une société, ça passe facilement par détruire la femme. Vu que la femme, elle a un très grand rôle dans la société. Elle a un très grand rôle dans la vie. C'est elle qui prépare les générations. C'est elle qui éduque les générations. C'est elle qui prépare nos enfants qui vont prendre la relève après les générations qui sont là. C'est elle qui donne l'instruction. C'est elle qui donne l'éducation. C'est elle qui fait de ces générations des gens capables, des gens responsables, des gens compétents. C'est la femme. Elle a un très grand rôle. Détruire la femme, c'est détruire la famille. Et c'est détruire la société. Et ils ont trouvé le meilleur moyen, c'est de lui dire que tu es dans
dans une situation de faiblesse et l'homme a commis toutes sortes d'injustices à ton égard et que tu es écrasé, que tu es oublié, que tu es négligé, tu dois demander tes droits, défendre tes droits, etc. Et on entend de jour comme de nuit, à chaque demi-heure, quand il y a les infos, on entend les droits de la femme, les droits de la femme, les associations féminines, etc. Et vous avez entendu qu'il y a même des pressions, même sur des pays musulmans, pour changer ce qui reste comme loi islamique dans certains pays. Les droits de la femme, les droits de la femme, les droits de la femme. Moi, j'appelle mes sœurs musulmanes à ne pas tomber dans ce piège. Les droits de la femme, ils sont là en islam. Les droits de l'homme sont là en islam. Nous sommes musulmans. Chacun a sa référence. Notre référence est l'islam, tout simplement. Nous avons des principes et des bases en tant que musulmans dans l'islam, c'est notre religion. On n'a pas à courir derrière quoi que ce soit puisque nous sommes musulmans. Musulmans, ça veut dire quoi, musulmans? Ça veut dire que tu as une religion que tu dois suivre, c'est l'islam. Et l'islam t'appelle à des principes, t'appelle à une manière de vivre, t'appelle à un mode de vie. C'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, détruire les sociétés et les communautés passe par là. C'est un chemin qui est très efficace. C'est de casser la femme et de faire de la femme une marchandise. Une marchandise qui se vend et qui s'achète, et même qui est offerte gratuitement. Aujourd'hui, le sujet que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les droits de la femme, est devenu une marchandise qui marche très très bien. Celui qui veut avoir beaucoup de membres et qui veut gagner beaucoup d'argent, il n'a qu'à aller louer un local et mettre une affiche « les droits de la femme ». Et tu vas voir, deux jours après, combien tu auras de membres. Les droits de la femme. Allez dans les tribunaux pour voir qu'est-ce qui se passe. Demandez aux frères et aux sœurs qui sont mariés pour voir qu'est-ce qui se passe dans les couples. Donc le fait de parler des droits de l'homme dans cette conférence, et j'insiste sur le côté homme dans cette conférence, dans cette deuxième partie de la conférence, non pas pour donner raison à l'un ou à l'autre, ce n'est pas le but, comme j'ai dit au début, mais c'est pour rappeler à beaucoup de nos sœurs de faire très attention de ne pas tomber dans le piège. Que le mari est votre ennemi. Que le mari doit être dans la vie du couple juste quelqu'un qui fait rentrer les provisions à la maison. Prends le koufa, t'as vu le koufa c'est quoi? Il doit subvenir aux besoins de la famille et pas plus. Et que si jamais un jour il dit quelque chose, je parle des croyants, je parle de mini, eh bien on lui dit attention. Attention, hein, le sang est un. Attention. Il y a quelques jours, un frère me dit, à peine il y a eu une dispute entre lui et son épouse, directement le sang est un. Directement, subhanallah, à ce point. Subhanallah, je parle des sœurs et des frères pratiquants. Je le mets entre parenthèses, pratiquants. Subhanallah, subhanallah, wallah, wallah. Je parle de moi-même, je ne me suis jamais imaginé qu'il viendrait un jour, jamais, il viendrait un jour où un homme ou une femme musulmane fera intervenir la police entre elle et son mari. Jamais. Subhanallah. Subhanallah. Peut-être beaucoup de frères et sœurs disent, mais il n'y a pas de problème, c'est pas quelque chose de grave. Islamiquement, c'est quelque chose de très grave, subhanallah. De très 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 grave. Subhanallah. Vous n'avez pas lu le Coran al-Karim, ni le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez un problème, qu'est-ce que vous devrez faire, il y a un problème. Il y a des démarches à suivre. Avant d'en arriver là, il y a des démarches à suivre. Subhanallah. Essayez la réconciliation. Essayez tous les moyens qui sont possibles. Les moyens de la sagesse, du rappel. Essayez de faire intervenir des gens de la famille. Insistez. Subhanallah. Aujourd'hui ça devient, on se marie. Avec, même, je dis pas avec deux mots, dans la rue, non, on n'a même pas besoin. Hier, je lisais dans un site sur Internet la catastrophe d'une femme musulmane à cause de cet Internet. Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est elle qui raconte qu'est-ce qu'elle est devenue à cause des dégâts qu'elle a fait à cause de l'Internet. On se marie via Internet. Et maintenant, avec les GSM caméras, masha'Allah, masha'Allah, les photos qu'on envoie l'un à l'autre, hein, a'oudou billah. Où est-ce qu'il y a l'iman? L'iman, la foi, l'islam, où est-ce qu'il y a tout cela? c'est on vit dans un monde, je parle des musulmans, on vit dans un monde du shahawat, entre musulmans. Shahawat, vous savez c'est quoi shahawat, le plaisir. Aïna khawf Allah Azza wa Jal. L'islam, où est-ce qu'il est l'islam, subhanallah. Quand on parle, tu entends des musulmans parler de l'islam, ouais je suis musulman, ouais je suis musulmane, Allah ybarak, mashallah. Ah, dis-moi, où est-ce qu'il est la crainte de Allah Azza wa Jal. Shahawat, jour et nuit. Rentre dans certains couples à la maison. Regarde la TV, qu'est-ce qu'ils regardent à la TV. Rentre chez les familles musulmanes. Qu'est-ce qu'il y a à la TV. Regarde une sœur qui prie ou un frère qui prie. Regarde à la maison qu'est-ce qu'il fait devant la TV, qu'est-ce qu'il regarde. Jusqu'à 2h, 3h du matin. Quel film qu'il regarde, quel film qu'il regarde. Subhanallah. Et on dit musulman, musulmane, musulman pratiquant, pratiquante. Où est-ce qu'il est l'islam dans notre vie. L'islam c'est comme j'ai toujours dit, l'islam c'est la crainte. L'islam c'est la pratique. Ça c'est l'islam. Al Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a donné toute une série de droits, toute une série de mérites de l'homme et de la femme. Mais aujourd'hui, inchallah, j'insisterai sur les droits de l'homme pour ce que je viens d'expliquer, c'est de dire à nos sœurs, à nos filles, à nos mères, de leur dire que le mari, il a cette place en islam. Il a cette place en islam. Et que, si je vous le rappelle maintenant, c'est pour, non pas parce que vous ne le connaissez pas, ou bien parce que toutes les sœurs manquent à leur devoir, ce n'est pas mon but, c'est un rappel à celles qui ne connaissent pas ces droits qu'a cité Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou à celles qui ne les pratiquent pas. Et aussi, je préfère que ça soit la femme musulmane qui est consciente de ce que représente, de ce que doit représenter le mari dans sa vie. Le mari pour elle. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, la tante de Hussein ibn Mihsan, radiyallahu anhu, est venue, ammatu Hussein ibn Mihsan. Elle est venue chez Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a demandé quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout d'un coup, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Aïe Foulan, écoute-moi. Azatu ba'lin anti. Il lui dit, est-ce que tu es marié? Elle lui dit, Na'am, je suis marié. Il lui dit, Aïna anti min zaoujiki. Qu'est-ce que tu fais avec ton mari? Comment tu vis avec ton mari? Est-ce que tu donnes les droits qu'il a ton mari sur toi? قالت لا آلوه شيئا إلا ما عجزت عنه. Je fais mon possible, sauf ce que dont je suis incapable. Ce dont je suis incapable. Rasoul lui dit: فانظري أين أنت منه فإنه زد جنتك ونارك. Il dit, regarde bien, qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de ton mari, car ton mari est pour toi soit ton paradis ou ton enfer. Normalement, est-ce que ça doit nous suffire ce hadith ou pas? Et si on est croyant, subhanallah, et je dis, je rappelle, ce n'est pas pour donner tort ou raison à l'un ou à l'autre, c'est un rappel de la foi de chacun de nous. Un rappel de l'iman de chacun de nous. فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. L'homme pour sa femme est le paradis ou l'enfer. C'est-à-dire, si je parle des croyants, si Al-Mu'mina réussit à donner ce bonheur à son mari, eh bien, Yawm al-Qiyama, elle ira au paradis, elle rentrera au paradis par n'importe quelle porte du paradis. Et dans le cas contraire, فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. أسأل الله السلامة والعافية. الرسول عليه الصلاة والسلام a vu un de ses compagnons un jour, je suis en train de citer la place, de parler de la place du mari, qu'est-ce que ça représente pour la femme musulmane, croyante, mu'mina, pour qu'elle ne lâche pas jamais son non-mari. Ça veut dire quoi? Elle doit tenir à son mari. Et le mari doit tenir à sa femme. Et doit vivre ensemble. Vivre sur terre ensemble. Et continuer leur vie éternelle dans le paradis, inshallah. C'est un conseil. Quand tu veux te marier, aie cette intention. Tu vas te marier avec une femme pour vivre avec toute ta vie, inshallah. Et éduquer des enfants, laisser derrière vous une descendance mu'mina. Et inshallah ta'ala, vous gagnerez tous les deux, avec vos enfants et vos parents, le paradis. Wallah, tu vas vivre dans le bonheur. La sœur qui se marie avec quelqu'un, avec cette intention de rester avec lui, de faire avec lui un avenir en tant que couple musulman, d'éduquer une famille musulmane et de vivre dans le paradis ensemble, inshallah, azzawajal. Ils seront dans le bonheur. Mais si on se marie pour satisfaire des besoins et des plaisirs, et on se marie pour de l'argent, et on se marie parce que on a eu un coup de foudre, et on se marie pendant 2-3 mois, ensuite chacun y prend son chemin, on vivra malheureux. On se marie une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, il n'y aura pas de bonheur. Il n'y aura pas de bonheur. Le bonheur, ça passe par l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh ibn Jabal est venu de Sham. Il est parti à Sham, du côté de la Syrie, etc. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les gens se prosterner devant leur patriarche. Se prosterner. Alors il s'est dit, subhanallah, ils se prosternent devant leur patriarche. Eh bien, nous aussi, nous devons nous prosterner devant qui? Devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il a pensé. Alors, arrivé à midi, il a vu Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné. S'est incliné devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Mu'ad, ma hadha, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, Ya Rasulallah, j'ai vu les gens, dans mon voyage, se prosterner devant leur patriarche. Et je me suis dit que pour les musulmans, eux aussi doivent se prosterner devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il leur a dit, ne le fais plus. Ne le fais plus. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحدا غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه حقه عليها. Si je devais, Ravandi, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un autre qu'Allah, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari, vu la place que représente le mari pour la femme. Qui a dit cette parole? Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le chemin du paradis, ça passe par ton mari. إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةُ وَقِيلَ لَا ادْخُلِي مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شِئْتِ. Le chemin du paradis passe par le mari. Comme a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. أَيُّمَا امْرَأَةٍ. Comme rapporte l'imam muslim, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah azza wa jal. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. Je jure par celui qui détient mon âme. والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عليها. Je jure par celui qui détient mon âme, la femme que son mari, l'appelle pour avoir des rapports dans le lit et qu'elle refuse, eh bien toute la nuit elle est maudite par Allah Azza wa Jal. Alladhi fi sama, Allah subhanahu wa ta'ala, al malaika, illa maudit. Hatta yarda alayha zawjuha. Jusqu'à ce que son mari lui pardonne. Et malheureusement, j'entends chez certains frères ce problème. Et un frère, je vous cache pas, il y a quelques semaines, il m'a dit que depuis presque 6 à 7 mois qu'il n'a pas eu de rapport avec son épouse. On parle, on est musulmans, alhamdulillah. Parler de ces choses-là, ça fait partie de notre foi, de notre religion, digne. Depuis quelques mois, elle refuse. Un des objectifs du mariage, c'est pour l'homme et pour la femme. Al-ifa, la chasteté. Pour que ni l'un ni l'autre ne cherche à al-haram, l'illicite. Et c'est un droit des deux. Et c'est pour cela que Rasoul Allah a été tellement clair sur ce point. Illa kana alladhi fi as-sama'i صاخطا عليها حتى يرضى عليها زوجها. Et النبي صلى الله عليه وسلم mis en garde la femme pour ne pas obéir au mari dans ce qui est haram. Parce que peut-être certains frères profitent de ces droits que l'islam leur a donnés et ils incitent peut-être ou ils ordonnent à leurs épouses de commettre des fois certaines choses de haram. Comme on entend dans certaines familles musulmanes, que la femme veut porter le hijab et tu vois que c'est le mari qui veut pas. Et dernièrement, dans un des cas que beaucoup de parmi vous connaissent,
une jeune fille qui voulait rentrer, qui ne voulait pas retirer son hijab pour aller à l'école, et c'est le père qui l'a frappé, lui a retiré le hijab. Oula, l'ayyadu billah. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Donc le mari, quand il veut obliger sa femme à lui obéir, même dans le haram, elle doit refuser. Et on connaît des cas aussi de certaines familles musulmanes où le mari, dans, il veut commettre le haram avec son épouse dans ses rapports intimes. Il veut commettre le haram dans l'endroit qui est interdit pour le musulman. Et même il est en train d'encourir la malédiction d'Allah Azza wa Jal. La femme ne doit pas lui obéir. Donc quand on parle de l'obéissance de la femme au mari, c'est dans le cadre du halal, ce que Allah Azza wa Jal a autorisé. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Le mari qui dit à sa femme, tu dois porter des vêtements serrés, elle doit pas lui obéir. Le mari qui dit à sa femme, tu dois te maquiller pour sortir, elle doit pas lui obéir. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, sinfani min ahli an-nar lam arahuma ba'd. Deux catégories de gens qui iront en enfer, je ne les ai pas encore vus au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les deux, nisa'un kasiyatun 'ariyat. Des femmes vêtues et des vêtues à la fois, c'est-à-dire des vêtements serrés, c'est-à-dire des vêtements transparents. Kasiyat, ariyat, ma'ilat, mu'minat. Parmi les choses auxquelles a appelé l'islam, la femme musulmane, c'est de garder sa chasteté pendant et la présence ou l'absence du mari. De rester chaste et de garder sa chasteté. De ne pas tomber dans l'erreur ni dans le haram. Allah Azza wa Jal nous décrit les femmes pieuses en disant فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات les femmes vertueuses. قانتات, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a expliqué le terme قانتات, أي مداومات للطاعة لأزواجهن. Des femmes qui sont tout le temps dans l'obéissance de leur mari. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. Et pendant l'absence de leur mari, elles sont chastes comme durant la présence de leur mari. حافظات لأعراضهن ولأنفسهن في غياب أزواجهن. الإمام الطبراني رحمه الله تعالى rapporte dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasul alayhi sallatu wa sallam dit, خير النساء, qui est la meilleure des femmes? La meilleure des femmes, c'est qui? Non, je veux pas de nom, je veux les qualités. Laquelle? Il y a des signes pour la femme vertueuse. خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا أَبْصَرْتَهَا سَرَّتْكَ. Elle te plaît quand tu la regardes. Ça veut dire, tu as la joie quand tu la regardes. إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ. Tu as la joie, dès que tu rentres à la maison, subhanallah, tu as la joie de voir ton épouse. Tu es content d'elle. وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ. Et elle t'obéit quand tu demandes quelque chose. وَتَحْفَدُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ. Et pendant ton absence, eh bien, elle veille au fait qu'elle garde son honneur et sa chasteté et tes biens pendant ton absence. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à la femme musulmane de ne pas faire entrer à la maison quelqu'un que le mari ne veut pas qu'il soit là. Quelqu'un que tu n'aimes pas qu'il soit chez toi, la femme musulmane ne peut pas, l'épouse ne peut pas le faire rentrer. Qu'il soit un proche ou un ami ou quelqu'un d'autre, il ne doit pas rentrer à la maison si le mari ne le veut pas. Je parle de le mu'min et le mu'mina. Comme ça, on comprend pourquoi j'insiste sur ces points. Sinon, on va dire directement, mais pourquoi c'est pas le mari qui ne doit pas faire rentrer les personnes que la femme ne veut pas. Moi, je m'adresse à le mu'min et le mu'mina. Et je suis en train de citer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. La femme ne peut pas faire الصيام surrogatoire si le mari ne veut pas. Et à partir de là, les ulama, ils ont tiré une règle. Ils ont dit que le droit du mari passe avant nafila. Le droit du mari passe avant les choses surrogatoires. Le jeûne surrogatoire ne peut pas passer avant le droit du mari. Croire que le fait que tu fais beaucoup de jeûnes surrogatoires, beaucoup de prières nafila, et que tu as l'iman, masha'Allah, tu lis beaucoup de Qur'an et le Karim, et tu négliges ton mari, croire que c'est le bon chemin, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Que la sœur musulmane ou l'épouse musulmane croit que le fait
que l'hamdulillah, elle est bien avec Allah Azza wa Jal, qu'elle fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de umrah, beaucoup de hajj, elle lit beaucoup le Coran al-Karim, et qu'elle néglige le mari, et qu'elle n'a rien à faire s'il est content ou pas, eh bien c'est une grave erreur. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas d'elle ce qu'elle fait. L'obligatoire passe avant le surrogatoire. Donner ses droits à son mari, c'est une obligation. Plaire à son mari, c'est une obligation. Qui passe avant les actes surrogatoires. Et même dans l'obéissance, on demanda à Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Un homme lui dit, Cheikh l'Islam, la femme mariée doit-elle obéir à ses parents plus que le mari ou le contraire? Qui passe le premier? Puisqu'on parle des droits et devoirs, sinon je n'ai pas parlé de ces choses-là. Comme j'avais dit une fois, les parents, les beaux-parents, le mari, tout ça doit former une même famille. On ne doit pas tomber dans ce piège. Mais là on parle des droits et des devoirs. On dit à Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui passe le premier, les parents ou le mari? Il dit rahimahullah ta'ala que avant le mariage, ce sont les parents qui ont plus de droits sur la fille. Et une fois la fille mariée, c'est le mari qui a plus de droits sur la femme, avant ses parents. Et là, je rappelle le texte de Aïcha radiallahu anha avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, « Man ahakku nasi bil rajuli, qala ummuh, wa man ahakku nasi bil mar'a, qala zawjuha. » Le mari a plus de droits sur son épouse que la famille, que les parents, que les frères, que les sœurs et que tout le monde. C'est une chose qui est très importante pour mettre les droits de chacun dans le bon endroit et pour donner à chacun ce que l'islam lui a donné. Et de cette manière-là, la femme musulmane sait ce que l'islam lui demande et le mari sait ce que l'islam lui demande. Et c'est à chacun d'essayer de donner à l'autre les droits que l'islam exige de lui. Parmi les droits du mari sur son épouse, que la femme garde les secrets du couple. Garder les secrets du couple, ça veut dire quoi, les secrets du couple? Ce qui se passe entre l'homme et la femme doit rester entre la femme et l'homme. On ne doit pas raconter tous nos problèmes à n'importe qui. Des fois, pour un simple problème entre le mari et sa femme, 2 heures après, tout Bruxelles est au courant. Ah, t'es pas au courant de ce qui s'est passé? Ah, قلت لي وقلت لها المادي وقال لي وعملت له وعملها وكذا. 2 heures après, tout le monde est au courant. Toute la famille est au courant de ce qui se passe entre le mari et sa femme. C'est une erreur. L'islam demande au mari de garder les secrets. La vie, pas seulement la vie intime, de ce qui se passe entre le mari et sa femme. La femme aussi est appelée à garder ce qui se passe entre elle et son mari. Des fois, tu n'as même pas le temps de terminer ta phrase, déjà tu reçois un coup de fil. Hein? On m'a dit que tu as dit ceci et cela, et que tu vas faire ceci et cela. Tu dis, Zawja, subhanallah, qui a dit à tes parents ce qui s'est passé entre eux? Ouais, c'est mes parents. Je dois leur dire, c'est ma sœur. Je dois lui dire, je dois pas cacher. Khata, c'est une erreur, subhanallah. Ça détruit le couple. Il y a des frères, subhanallah, il y a des frères qui sont encore pires. À peine il lui dit quelque chose, directement il va le raconter. À qui? À ses parents à lui, ou à sa femme et à lui. Que ma femme a fait, a dit ceci et cela. Voyez. Je passerai directement à donner des exemples de certains couples qui ont pratiqué les commandements de l'islam et qui ont vécu dans le bonheur de l'islam, dans le couple, et qui ont vécu cette paix dont on parle, cette affection dont parle le Coran al-Karim, al-Mawadda, al-Rahma dont parle le Coran al-Karim. Quand dans le couple, on construit notre vie sur l'islam, sur l'iman, sur la piété, sur la connaissance, al-ma'rifa de l'islam, sur al-mahabba, sur la fraternité, al-ukhuwa, sur le respect, eh bien, qu'est-ce qu'on gagnera? On gagnera le paradis à deux, comme on a vécu à deux, et on laissera derrière nous des enfants salihin qui vont faire des bonnes actions pour nous après notre mort. Je citerai quelques exemples de certains sahaba et sahabiyat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment la femme musulmane s'attachait à son mari
elle voulait rester avec son mari, et comment l'homme musulman s'attachait à sa femme et demandait à sa femme de rester avec lui jusqu'à la mort pour qu'ils restent ensemble dans le paradis, comme c'est le cas de Hudayfa radiallahu anhu, comme je citerai. Le premier exemple, c'est celui de Umm Abdillah, Aisha, Umm al-Mu'minin, radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu un jour un problème avec Rasoul alayhi salatu wa sallam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère contre elle. Et pendant presque un mois que ça a duré ce problème entre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Aisha radiallahu anha, presque un mois, à la fin, Rasoul est venu lui dire, après la révélation du verset dans Surat al-Ahzab, il lui dit, Ya Aisha, c'est à toi de décider. Choisis. Tu veux le dunya? Tu veux l'argent? Tu veux le bien matériel? Ou bien tu me veux moi et Allah subhanahu wa ta'ala et l'akhira? Et qu'est-ce qu'elle lui répond à Aisha radiallahu anha? Afika, astamiru abawaya ya Rasulallah? Elle lui dit, parce que Rasul lui dit, va, demande à tes parents, est-ce que tu veux choisir ton mari, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, le de l'akhira, ou tu veux choisir les biens matériels de ce bas monde? Elle lui dit, je n'ai pas à les demander et consulter mes parents. J'ai déjà pris ma décision. Je choisis mon mari, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Umm al-Darda, radiyallahu anha. Umm al-Darda, subhanallah, elle a eu une histoire avec Muawiyah, radiyallahu anha. Et c'est une histoire qui est authentique. Quand Muawiyah, après la mort de Abu Darda, le mari de Umm al-Darda, Muawiyah a voulu épouser Umm al-Darda. C'était une femme pieuse. Il a voulu l'épouser et qu'est-ce qu'elle lui répond, radiyallahu anha? Elle lui dit, je n'accepte pas être ton épouse. Et Muawiyah lui dit pourquoi? Elle lui a dit, car j'ai entendu un jour mon mari Abu Darda, il m'avait dit qu'il a entendu Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dire, Al-mar'atu li-akhiri azwajiha fil jannah. Al-mar'atu li-akhiri azwajiha. La femme, le jour de la résurrection, elle sera avec qui dans le paradis? Elle sera avec le dernier de ses maris. Si elle était mariée plusieurs fois, eh bien le dernier mari, c'est lui qui sera avec son épouse Yawm al-Qiyamah. Et comme moi, j'aime beaucoup mon mari Abu Darda qui est mort, je veux qu'on soit ensemble dans le paradis, alors j'ai décidé de ne plus me remarier après Abu Darda, radiyallahu anhu. Ça c'est un exemple de la vie de la femme musulmane avec son mari. Non pas vivre seulement sur cette terre ensemble. Elle veut même rester avec son mari éternellement dans le paradis. A'oudou billah, je vais rester avec lui dans le paradis. Ya latif, ya latif, khalim. Yakfirat dunya, al-mashakil de dunya, al-hamd de dunya, baqi al-akhira. Beaucoup de gens pensent comme ça. Ils disent, non, alhamdoulilah, non. Pas un jour de plus. Allah a'oulka. Non, tu peux le garder. Regarde, subhanallah, quelle différence. Elle refuse qui? Muawiyah qui était un des califes des musulmans, radiyallahu anhu. Elle refuse de l'épouser, Umm al-Darda. Elle lui dit non. Car mon mari m'a rapporté ce hadith du prophète sallam que la femme sera au paradis avec le dernier mari. Et moi je ne veux plus me remarier après Abu Darda, comme ça je serai avec lui dans le paradis. Radiyallahu anha. Umm Salama, radiyallahu anha, qui est une des mères des croyants. Umm Salama avait un mari qui s'appelle Abu Salama, qui est le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Salama est décédé quelques mois après la bataille de Uhud. Il était blessé à la bataille de Uhud et quelques mois après il est décédé, radiyallahu anhu. Et Umm Salama avait des enfants, elle est restée sans mari. Il y a Abu Bakr et certains compagnons qui se sont proposés au mariage, elle a refusé. Et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam un jour il lui dit, Ya Umm Salama, dis, quand, puisque tu es frappé par ton malheur, la mort de ton mari, dis, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khayran minha. Car celui qui dit ce dua, Allah il lui donne après le malheur quelque chose de meilleur. Qu'est-ce qu'elle lui répond, Umm Salama? Il lui dit, Ya Rasulallah, afil muslimina khayrun min abi Salama? Est-ce qu'il y a parmi les musulmans quelqu'un qui est meilleur que mon mari Abu Salama? C'est ce qu'elle croyait, radiyallahu anha, qu'il n'y a personne comme son mari Abu Salama. Regarde quelle estime qu'elle avait, radiyallahu anha, pour son mari. Quel respect qu'elle avait pour son mari. Et qu'est-ce que ça représentait Abu Salama pour Umm Salama radiyallahu anha? Au point où elle dit, elle se demande devant Rasoul, elle lui dit,
est-ce qu'il y a parmi les musulmans, elle parle de qui les musulmans là? De sahaba, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abdurrahman. Elle parle des grands sahaba et de sahaba, elle dit, y a-t-il parmi les musulmans quelqu'un qui est meilleur que Abu Salama? Elle se pose la question. Quand il disait, il n'y a personne qui est comme Abu Salama pour moi. Tellement elle a vécu dans le bonheur avec Abu Salama. Radiyallahu anhuma jami'an. Hamla bint Jahsh, Ibn Hisham, dans son recueil de Sira, Ibn Hisham dans son livre de Sira, rapporte que cette femme, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'épouse de Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umayr est tombé martyr dans la bataille de Uhud. Alors, il y a Hamla bint Jahsh qui est venue pour rencontrer le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et on lui annonce la mort de son frère, Abdullah ibn Jahsh. On lui dit que ton mari est tué dans la bataille de Uhud. Qu'est-ce qu'elle fait? Estarja'at wa staghfarat lah. Elle dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma aghfir lah. On lui annonce la mort de son oncle maternel, Hamza, radiyallahu anhu. Parce qu'elle fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La famille de Abdullah ibn Jahsh et Hamna bint Jahsh, Zainab bint Jahsh, elles font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui annonce la mort de son oncle Hamza. Qu'est-ce qu'elle fait? La même chose. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle lui a imploré pardon. Et quand on lui a annoncé la mort de Mus'ab, Mus'ab ibn Umayr, elle a commencé à pleurer. Radiyallahu anha. Elle a beaucoup pleuré pour la mort de Mus'ab, son mari. Et il est rapporté que même Rasoul Salam a dit à ce propos, est-ce que vous êtes étonné de la voir pleurer de cette manière? Et car le mari représente beaucoup de choses pour la femme. Car le mari représente beaucoup de choses pour la femme. C'est pour ça qu'elle a pleuré. Elle n'a pas pleuré ni pour son oncle, ni pour son frère, mais elle a beaucoup pleuré pour son mari, Mus'ab ibn Umayr. Ummu Hakim bint al-Harith, radiyallahu anha, c'est l'épouse de Ikrima, fils de Abu Jahl. Vous connaissez Abu Jahl. Abu Jahl est tué, mushrik. Son fils Ikrima était lui aussi mushrik. À la 8e année de l'Hijra, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque pour libérer la Mecque d'entre les mains de mushriki, il y avait une annonce générale de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam que toute personne qui rentre chez lui et ferme sa porte, il est en paix. Que toute personne qui rentre dans la mosquée sainte, il est en paix. Et que toute personne qui rentre chez Abu Soufiane, il est en paix. Tout le monde était pardonné par le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont fait du mal à le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, excepté une liste sur laquelle il y a un certain nombre de personnes qui ont trahi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui ont insulté le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il les avait mis sur la liste noire. C'est-à-dire, ils étaient condamnés par le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Sahaba, tuez-les. Parmi ces gens-là, Ikrima, fils de Abu Jahl. Son épouse, Ummu Hakim bint al-Harith, est devenue musulmane. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est devenue musulmane. Son mari Ikrima s'est enfui, comme rapporte Ibn Abdelbar. Il dit, Ibn Abdelbar, rahimahullah, le grand savant malikite, dit que Ikrima s'est enfui jusqu'au Yémen. De la Mecque jusqu'au Yémen. Il a peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était condamné. Et il y a son épouse, Ummu Hakim, qui a insisté à gagner son mari, subhanallah. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé au prophète sallam d'aller chercher, elle, aller chercher son mari. Il a été derrière son mari, Ikrima, elle l'a cherché, elle lui a dit de venir, elle a insisté de venir rencontrer le sallam. Elle lui dit, tu n'as rien à craindre, le prophète sallam est un grand pardonneur, il pardonne. Viens le rencontrer, lui demander pardon, il te pardonnera sallallahu alayhi wa sallam. Elle a insisté, elle veut gagner son mari, elle veut pas le perdre. Subhanallah. Alors, Si Ummu Hakim avait laissé tomber son mari, qu'est-ce qu'il serait devenu? Ikrima. Il serait resté mushrik. Et peut-être il serait mort mushrik. Un enfer éternel. Grâce à son épouse, radiyallahu anha, il est revenu. Il a rencontré le Prophète. Il est devenu musulman. Le Prophète lui a pardonné. Et même il est devenu un des grands héros de l'islam, radiyallahu anha. Grâce à qui? À son épouse, ba'dallahi subhanahu wa ta'ala. Une femme qui avait décidé d'aller au pèlerinage, jamais sans mon mari. Elle avait décidé d'aller au pèlerinage. Avec qui? Avec Sahaba radiallahu anhu. Avec les Sahaba, des femmes et des hommes, etc. C'est une caravane dans laquelle tu vois la foi marcher sur terre, l'imam. Sahaba radiallahu anhu. Elle va avec eux. La confiance totale, l'honnêteté, le sérieux, et son mari était inscrit parmi les gens qui vont aller à al-jihad. L'homme vient chez Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, quand l'homme a discuté avec Rasoul alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, je vais aller à al-jihad, je me suis inscrit, et j'ai envoyé mon épouse au pèlerinage. Rasoul sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va et efface ton nom du registre des gens qui vont aller au jihad, et wahjuj ma'a zawjatik, et rejoins ton épouse pour aller avec au pèlerinage. Jamais son nom. Va avec ton épouse au pèlerinage. Ne la laisse pas. Tu vas avec ton épouse. Al-Umra ensemble. Al-Hajj ensemble. Le voyage ensemble. Vous allez n'importe où. Soyez ensemble. Vous vivrez ensemble dans le bonheur. Vous allez, inshallah, yom al-qiyama, rester ensemble. Bi-idhnillahi azza wa jal. Ayyatuha al-mar'a al-muslima al-mu'mina. Femme croyante. Accepte. Si ton mari te donne un conseil de l'khayr, de bien, accepte-le. Accepte-le. C'est un signe d'amour envers ton mari. Ibn Abi Hatim, ainsi que Ibn Kathir, rapporte dans un texte dans la chaîne de transmission, et faible, d'après Safiya bint Shayba, qalat, elle dit, mais le texte il est faible de la manière où je l'ai écrit ici, là, c'est-à-dire cette version est faible, mais sinon, le même sens du même texte est authentique dans Sunan Abi Daoud. Aïcha radiallahu anha était avec un groupe de femmes qui parlaient des mérites des femmes de Quraysh, les vertus des femmes de Quraysh. Les femmes de Quraysh étaient des femmes distinguées dans leur qualité. Et les femmes avec Aïcha parlaient des femmes de Quraysh. Aïcha c'est une des femmes de Quraysh. Hafsa, l'épouse du prophète, c'est une des femmes de Quraysh. Et d'autres femmes. Et alors, un groupe de femmes qui étaient autour de Aïcha parlait des femmes de Quraysh et de leur grande qualité. Et comme dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, en parlant des femmes de Quraysh, il dit, Ahnahunna, ou Ahnahu ala walad, wa ar'ahunna li zawjihinna ou li azwajihinna fi zat yad. Ça veut dire que elles ont beaucoup d'amour envers leurs enfants, les femmes de Quraysh, et elles sont aussi des femmes qui ont beaucoup de respect et beaucoup de responsabilité à l'égard de leur mari. Alors quand Aïcha a entendu ces paroles de femmes qui parlaient des qualités des femmes de Quraysh, elle dit, mais je ne connais pas de femme meilleure que celle de l'Ansar, les Médinoises. Pourquoi? Elle dit, dès que Allah Azza wa Jal a révélé le verset qui ordonne à la femme de porter le hijab, directement, elles sont rentrées chez elles à la maison, elles ont porté le jilbab. Et le lendemain, ils sont venus assister à la prière de Subh derrière Rasoul Sallam, et ils ressemblaient à des corbeaux. Tellement ils ont porté le jilbab noir. Radiallahu anhunna. Et dans le hadith, il est dit que les hommes, quand ils ont entendu les versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ordonne le hijab à la femme musulmane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Directement, ils sont rentrés à la maison pour dire ce qu'ils ont entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leurs épouses. Qu'Allah Azza wa Jal a révélé des versets qui ordonnent à la femme de porter le hijab. La femme musulmane de l'Ansar, comme dit Aïcha, dès qu'elles ont entendu cette parole de la part de leur mari directement, elles ont pris le jilbab, elles ont mis le jilbab, et elles sont sorties pour assister à la prière derrière Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc accepter ce que ton mari dit, du moment que c'est quelque chose de bien, ça lui fera un grand plaisir. Et ça contribue à la construction d'un grand bonheur dans la famille et dans le couple, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et d'après Ikrima, Asma, la fille de Abu Bakr, As-Siddiq, qui était l'épouse de qui? Asma, la fille de Abu Bakr. C'était la femme de Zubayr ibn al-Awwam. Un des 10 dont le prophète a annoncé le paradis, Zubayr ibn al-Awwam. Asma, c'est la sœur de Aïcha, radiallahu anhuma. Asma, comme dit Ikrima, était la femme de Zubayr ibn al-Awwam, wa kana shadidan alayha. Et Zubayr était un peu sévère. Il était un peu sévère. Fa'atat abaha, fa'shakat ilayh. Elle s'est plaint auprès de qui? De son père. C'est qui son père? Abu Bakr, as-Siddiq radiyallahu anha. Et Abu Bakr lui dit, Zubayr, il t'a fait du mal? Eh bien, viens, on va au tribunal. Yak. Et il n'a pas dit, on va au tribunal. On va chercher un avocat. Eh bien, tu vas voir qu'est-ce que je lui ferai.
je lui ai montré les étoiles pendant la journée. Hein? C'est pas ce qu'il a dit à Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr, c'est un homme sage. C'est un homme croyant. C'est un père responsable. Et c'est comme ça que ça doit être les parents du mari et de la femme. Ils doivent être des gens responsables qui regardent loin, très très loin. Et ils ne regardent pas qu'au profit matériel. Ils regardent très très loin. Les conséquences graves de la destruction de la famille. Les conséquences très très graves de la destruction de ce couple. Et donner des bons conseils à leurs enfants. Et de dire au mari et à la femme, taqullah, soyez des gens sérieux. Restez ensemble, vivez ensemble. Chassez le shaitan d'entre vous. N'écoutez pas ce que disent les gens. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit à sa fille, Asma, ya bunayya, isbiri, fais preuve d'endurance, de patience, ya bunayya, oh ma fille, isbiri, fa inna al-mar'a, idha kana laha zawjun salih, thumma mata anha, falam tatazawwaj ba'dahu, jama'a baynahuma aw jumi'a baynahuma fi al-jannah. Chou, subhanallah, quel conseil lui dit. Abu Bakr, il lui dit, écoute ma fille, même si tu trouves c'est difficile, reste avec ton mari. Car une femme qui a un mari pieux, et quand il meurt, elle reste veuve, elle ne se remarie pas, après sa mort, ils vont être ensemble dans le paradis. Et comme Zubayr est un homme du paradis, ça veut dire que c'est à elle de le rejoindre dans le paradis, Inch'Allah Azza wa Jal. Abu Bakr, il veut que sa fille reste avec son mari pour qu'ils vivent ensemble dans le paradis. Et un jour, il dit à son épouse, Hudayfa radiallahu anhu, il dit, Inshi'ti, après la mort du mari, elle a le choix, la femme, de faire ce qu'elle veut. Se marier ou rester, veut, c'est à elle de décider. Mais Hudayfa, qu'est-ce qu'il dit à son épouse? Inshi'ti, antakuni zawjati fil jannah, fala tazawwaji ba'di. Si tu veux rester, tu veux être mon épouse dans le paradis, eh bien, tu ne dois pas te marier après ma mort. Fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha. Car la femme, elle sera dans le paradis avec le dernier mari, fil dunya. Fa li dhalika, حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده بعد موته. Il dit, c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal a interdit aux épouses du prophète sallam de se remarier après la mort du prophète sallam, car elles seront les épouses du prophète sallam dans l'au-delà, dans le paradis. Et à ce propos, dit Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, après la mort du prophète sallam, quand certains ils ont parlé de Aïcha quand elle est sortie dans ce qu'on appelle la bataille du chameau, ils ont parlé de Aïcha, Ammar leur a dit, faites attention, ne dites que du bien de Aïcha. Allah Azza wa Jal vous a éprouvé via Aïcha pour voir est-ce que vous allez obéir à Allah ou à Aïcha radiallahu anha. Mais sachez que Aïcha, innaha zawjatu nabiyikum fi dunya wal akhirah. C'est l'épouse de votre prophète dans ce bas monde et dans le delà. Et je termine par la parole suivante. Le train de la vie parcourt un chemin qui est très très court, qui est d'une soixantaine à une septantaine d'années, dans la plupart des cas. Et ce chemin de la vie est construit par deux personnes, ensemble, un homme et une femme. Le jugement du Yawm al-Qiyama est très très lourd. C'est un jour qui durera 50 000 ans. Après les 50 000 ans, un paradis éternel ou un enfer éternel. Et c'est à chacun, à l'homme et à la femme, de faire son choix. De choisir l'homme pieux et la femme vertueuse. De vivre l'islam à la maison, dans le couple, dans la famille. Et de vivre pour l'islam, et de chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui fera le bonheur, et c'est ce qui fera la paix dans le couple, et c'est ce qui fera que nos générations futures seront des générations de bien, et qui vont répondre le bien et la lumière à laquelle nous a appelé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Sans cela, eh bien, les problèmes ne feront qu'augmenter, le divorce ne fera qu'augmenter, et les couples ne feront que se déchirer, se détruire. Et c'est une chose que ne veut pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'aime pas cela pour les gens, n'aime pas cela pour les musulmans et pour les couples musulmans. Et c'est un appel et c'est un rappel pour chacun de nous. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.